l'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
Que voulez-vous, madame ? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 7 février 2018 à 20h au Centre Rabelais de Montpellier, La Méduse qui fait de l'œil et autres merveilles de l'évolution de l'ouvrage. Une conférence proposée par Jean Deutsch. Cette conférence propose de revenir sur les merveilles de l'évolution biologique par l'angle original de la vision. L'incroyable inventivité de la nature est illustrée par la variété des yeux dont sont dotés des animaux aussi différents que les méduses, les caméléons, la mouche, la coquille Saint-Jacques, le poulpe et bien d'autres. Darwin, lui-même, s'étonnait que le simple mécanisme de l'évolution ait pu conduire à des dispositifs de vision aussi différents et aussi complexes. Jean Deutsch, professeur émérite de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, nous propose une synthèse sur cette question capitale qu'est la théorie de l'évolution lors de cette 15e conférence de la 9e saison de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir. Donc moi je m'appelle Isabelle Busseau, je suis chercheuse au CNRS et j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir le professeur Jean Deutsch. Donc Jean Deutsch a eu une carrière florissante en tant qu'enseignant-chercheur. Il a enseigné la zoologie et la génétique à Paris, à l'université qui devait s'appeler Jussieu à l'époque, l'université Pierre et Marie Curie aujourd'hui. Alors vous savez que le XXe siècle a vraiment été le siècle de la génétique, puisque c'est au début du XXe siècle que cette science est apparue. Et pendant tout le XXe siècle, l'action conjuguée de nombreuses équipes de par le monde ont abouti à comprendre ce que c'était que les gènes au niveau structure et ce qui faisait que l'activité des gènes gouverne en fait... gouverne l'activité des cellules et de tout ce qui est vivant sur la Terre, aussi bien les grandes fonctions comme la reproduction, l'œil, donc on va parler de la mise en place de l'œil, le développement embryonnaire. Et puis les gènes aussi, en étant portés par les chromosomes, eh bien, ils sont transmis de génération en génération et c'est eux qui assurent la pérennité des espèces. Et donc évidemment, la génétique... a fourni un cadre pour soutenir la théorie de l'évolution qui avait été proposée juste quelques décennies avant par... par Charles Darwin. Tout ceci a favorisé l'émergence d'une discipline particulière qu'on a appelée Evo-Devo, où la génétique du développement... a pu être intégré à l'évolution pour comprendre, a permis de comprendre un peu les mécanismes à la base de l'évolution. Et Jean est un des premiers en France à avoir ouvert un laboratoire consacré à l'Evo-Devo, donc Evo pour évolution, Devo pour développement. Alors depuis quelques années, Jean, il est à la retraite, donc il a cessé ses activités d'enseignement et de recherche, mais... Et il est professeur émérite maintenant, il continue à faire ce qui le passionne, c'est-à-dire communiquer la science. Et il communique la science en écrivant des livres qui sont à la portée de tout un chacun, où il raconte des histoires, qu'il éclaire, pour éclairer un peu la manière dont a pu se produire l'évolution. Et je trouve que son approche est très intéressante et très importante, parce qu'en fait, il ne nous montre pas des faits. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des faits scientifiques qui sont vrais, à opposer aux faits alternatifs qui sont faux. Alors, c'est très difficile à concevoir, c'est très difficile de reconnaître un fait qui est vrai d'un fait qui est alternatif ou faux. Ce que Jean nous montre, c'est la démarche intellectuelle, la démarche que suit la science pour replacer des faits, justement, dans un ensemble plus vaste et cohérent. Et cette démarche intellectuelle, cette démarche scientifique, c'est une démarche qui ne doit pas être réservée simplement aux scientifiques, c'est une démarche qui est accessible à tous. Et donc c'est le grand mérite de Jean d'écrire des livres qui justement montrent cet aspect très important de la science qui nous appartient à tous. Donc il va vous faire la conférence ce soir et puis ensuite on aura un débat, vous pourrez poser des questions sur la conférence elle-même, mais j'espère aussi plus largement sur la théorie de l'évolution, peut-être les difficultés qu'elle peut soulever. Et donc je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Jean.
Merci Isabelle pour cette présentation. Je voudrais remercier aussi M. Penalva et Mme Stoppa et l'Agora des Savoirs pour m'avoir invité à présenter mon livre dans cette salle magnifique. Et donc, je vous remercie beaucoup d'être présents si nombreux. Alors, ce livre, finalement, c'est le dernier de ceux que j'ai rédigé dans l'esprit que nous a dit Isabelle Busso, c'est-à-dire de faire connaître finalement faire partager la théorie de l'évolution. Alors la théorie de l'évolution avec ses composantes, en particulier justement du développement, c'est ce qui m'a intéressé ces dernières années. Et en fait, la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qui est en général très mal compris. Et donc, c'est vraiment très motivant d'essayer de faire comprendre et de redresser même certaines erreurs très répandues concernant la théorie de l'évolution. Alors, ce livre s'appelle « La méduse qui fait de l'œil » parce que, finalement, c'est étrange. On peut trouver que c'est assez étrange qu'il y ait des méduses qui aient des yeux. Toutes les méduses n'ont pas des yeux, mais certaines méduses ont des yeux, et des yeux qui permettent la vision. Donc, dans mon exposé, enfin dans mon livre de toute façon, en général pour moi, un œil, c'est pas seulement un appareil optique, c'est un appareil optique qui permet la vision. Donc pour avoir la vision, il faut que cet appareil optique soit relié au système nerveux, et donc l'appareil optique produit une image, et cette image est interprétée par le système nerveux. Alors ce qui est... Donc, dans mon livre, je reprends donc un premier chapitre sur Darwin, et je vais expliquer pourquoi. Et puis toute une série de chapitres qui présentent toute une variété d'yeux qu'on trouve chez les animaux. Eh bien, je répète, chez les animaux, parce que en fait, on ne trouve pas. Pour moi, les yeux sont associés à la vision, et donc ça suppose l'existence d'un système nerveux. Et donc on a trouvé des photorécepteurs, c'est-à-dire des cellules ou des organes, des organites, une partie des cellules chez des organismes unicellulaires qui sont capables de recevoir la lumière. Et pourtant, ce ne sont pas des yeux, parce que l'image n'est pas interprétée par un système nerveux. Donc, à mon sens, ce ne sont pas des yeux. Alors, le premier chapitre s'appelle « Le frisson de Darwin ». Et pourquoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parce que Darwin a écrit dans « L'origine des espèces », au chapitre 6, il a écrit ces choses-là. Si on pense que la sélection naturelle pourrait produire d'un côté des choses aussi futiles que la queue d'une girafe qui sert surtout de chasse-mouche et des choses aussi sophistiquées que les yeux, eh bien on est devant des yeux qui sont encore aujourd'hui tellement difficiles à comprendre. Ça semble assez étrange. Et même, il va plus loin, il dit que, supposer que l'œil, avec ses propriétés inimitables qui permettent d'ajuster d'ajuster la mise au point aussi bien à plusieurs distances, qui permettent d'admettre des quantités différentes de lumière, qui permettent de finalement de corriger les aberrations comme les aberrations chromatiques, tout ça qui ait pu être fait par la sélection naturelle, ça peut sembler stupide au dernier degré. Alors, les aberrations chromatiques, je pense que si vous avez... Enfin, tout le monde a pu s'en rendre compte, par exemple, en utilisant des jumelles. Quand on utilise des jumelles, eh bien, avant de faire la mise au point, il arrive qu'on voit des choses assez curieuses où on a des cercles de couleurs. C'est ça ce qui est une aberration chromatique. C'est-à-dire, ce n'est pas des vraies couleurs, c'est un problème optique qui fait qu'on a des franges d'interférence qui produisent des fausses couleurs. Donc c'est les yeux des animaux sont capables en général de corriger assez bien, nos yeux en particulier, de corriger assez bien les aberrations chromatiques. Et il ajoute, alors ces paragraphes de Darwin ont fait le miel des créationnistes, et qui ont dit, vous voyez bien que Darwin lui-même ne croit pas dans sa théorie de la sélection, puisqu'il dit qu'elle est incapable d'expliquer une chose aussi sophistiquée qu'un œil. En fait, ce n'est pas le cas. Et tout de suite après, Darwin ajoute, cependant, si on suppose que les différentes gradations entre un œil tout à fait parfait et... un œil imparfait peuvent exister et que ces différents grades puissent être transmis génétiquement, ce qui est le... Enfin, génétiquement, héréditairement, il n'emploie pas le mot génétique, Darwin, eh bien, à ce moment-là, le problème de penser que la sélection naturelle n'est pas capable de former un œil disparaît. Et donc, vous voyez, sa démarche, et sa démarche dans la suite de ce chapitre, c'est de prendre comme exemple des gradations différentes chez des yeux, en fait, de crustacés. Il utilise les crustacés. Et il dit d'ailleurs très, très clairement que chez les vertébrés, il y a très peu de différences dans les différents yeux des vertébrés, ce qui est le cas et qui tout à fait a été confirmé aujourd'hui. Donc, il s'est intéressé à cette question qui lui posait problème, qui pensait poser problème à la théorie de l'évolution, et il résout ce problème, c'est ce qu'on a appelé le frisson de Darwin, en prenant des exemples des variations des yeux chez les animaux. Alors, pourquoi j'ai pris dans le deuxième chapitre du livre, je parle de la méduse. Pourquoi la méduse? Eh bien, parce que on s'attend pas à ce que les méduses aient des yeux. Pourquoi on s'attend pas à ce que les méduses aient des yeux? Parce que les méduses sont des organismes qui ne sont pas bilatériens. Nous sommes des organismes bilatériens, c'est-à-dire que nous avons une symétrie. Qui permet de distinguer la droite et la gauche. Et en fait, c'est parce que notre plan du corps est fait avec un seul plan de symétrie qui passe par l'axe antéro-postérieur, et on a un seul plan de symétrie, ce qui permet de distinguer une droite et une gauche. Mais il y a des animaux qui... Et la plupart des animaux sont des bilatériens. La plupart des animaux que nous connaissons, les plus connus, sont des bilatériens, que ce soit des mollusques, des annélides, des vertébrés, bien sûr, et aussi tous les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, les araignées, et ce genre de choses. Donc tous ces animaux sont des bilatériens. Mais il y a des animaux qui ne sont pas bilatériens, et en fait, ces animaux non bilatériens, il y a trois grandes lignées de ces animaux. D'une part, les éponges. D'autre part, des animaux qui sont des animaux marins, en général planctoniques, qui sont les cténophores. Et en troisième grande lignée d'animaux non bilatériens, les cnidaires. Les cnidaires s'appellent cnidaires parce que ça vient du grec cnidé, qui veut dire ortie. Ce sont des organismes urticants. Ceux qui ont été piqués par des méduses le savent. Et il y a même en Australie des méduses qui ont un poison tellement violent qu'elles sont capables de tuer un homme et même un cheval, c'est-à-dire un animal encore plus gros qu'un homme. Et ces méduses australiennes sont tellement dangereuses qu'il y a des gardes-côtes qui sont là pour faire attention à ce que les gens ne soient pas piqués par ces cuboméduses et soient et leur porter secours éventuellement. Alors, ces méduses sont voilà une méduse qui est familière sur nos côtes, qui est Aurelia aurita. On voit très bien que elle a un plan asymétrie radiale avec deux plans de symétrie qui coupent, ce qui fait que chaque quart finalement est, peut être répété. On peut couper la méduse en quatre et retrouver les deux autres quarts simplement par répétition. Donc, et avec deux plans de symétrie, on n'a pas une symétrie bilatérale, on a une symétrie radiale d'ordre 4. Alors, cette méduse Aurelia aurita est assez fréquente sur nos côtes, et vous en avez peut-être vu. Et il y a des méduses, celles dont je vais parler maintenant, qui sont des cuboméduses. Et cette cuboméduse, alors cette espèce-là, Tripedalia, est plutôt fréquente dans les mers des Antilles, sur le golfe du Mexique, mais les cuboméduses australiennes sont celles dont je vous ai parlé et qui sont très, très violentes et dont la piqûre peut être mortelle. Alors, vous voyez, on retrouve dans cette méduse un plan, une symétrie radiale d'ordre 4. Et ce qui est remarquable, c'est leur organe sensoriel qu'on appelle des ropalies. Alors, ces ropalies sont... Donc, comme il y a quatre ropalies, tout se fait par quatre dans cette méduse, il y a quatre ropalies qui sont situées de chaque quart, en quelque sorte, de la méduse. Cette ropalie a cette chose extraordinaire, c'est que c'est un organe qui est plurisensoriel. C'est très rare chez les animaux d'avoir des organes qui servent à plusieurs sens à la fois. Nous, on a l'habitude de considérer qu'on a cinq sens, le sens de la vue, hein, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le toucher, l'odorat, le goût, le cinquième, c'est quoi ? L'ouïe, voilà. Alors l'ouïe, c'est intéressant parce que l'ouïe, c'est aussi, nous sert d'organe de stabilisation. On a dans l'oreille interne des petits cristaux qui permettent de connaître finalement, de savoir où on est, si on est debout ou couché, et ce genre de choses. Et vous savez que si on a un problème avec si ces cristaux de l'oreille interne se déplacent, on a un vertige qu'on appelle le vertige de Meynière, et, ce qui peut être assez handicapant. Donc, en fait, ce sont des cristaux de calcaire, silico-calcaire, qui permettent ce sens de l'équilibre. C'est un petit peu comme cet appareil à sous qu'on appelle un flipper. Vous avez une petite bille dont les mouvements déterminent si vous êtes en équilibre ou pas. Et donc là, c'est pareil. On a dans cette ropalie un cristal, le statolite, qui est marqué cristal ici, qu'on appelle en général le statolite, qui est un cristal calcaire et qui sert exactement de la même manière que les cristaux de notre oreille interne. Et alors, surtout, ce qui est remarquable, alors en plus de ça, ce qui n'est pas marqué sur ce schéma, c'est qu'il y a aussi des canaux qui sont chimio-sensoriels, donc qui sont l'équivalent du goût et de l'odorat. Et puis on a, vous voyez, 6 yeux. Alors, 6 yeux par ropalie, il y a 4 ropalies, ça fait 24 yeux pour chaque méduse. C'est pas mal. Et donc, on a pu montrer que ces yeux servent, qu'il y a effectivement une vision. Alors, c'est là où c'est étrange, parce que, comme je l'ai dit, finalement, les animaux bilatériens, ils ont une symétrie bilatérale. Et une des propriétés qu'on rencontre chez tous les animaux bilatériens, c'est un système nerveux central qui est organisé suivant l'axe antéro-postérieur avec un cerveau ou des ganglions cérébroïdes, ce qui veut finalement dire un genre de cerveau, qui sont toujours, ce cerveau ou ces ganglions cérébroïdes sont toujours en position antérieure et dorsale, et puis une partie qui est le long de l'axe antéro-postérieur, qui est chez nous la moelle épinière qui est dorsale, mais chez beaucoup d'animaux, cette partie, cette deuxième partie du système nerveux central est ventrale. Donc il n'y a que chez les vertébrés que la deuxième partie du système nerveux central est dorsale. Mais à part cette différence entre dorsale et ventrale, finalement, on retrouve la même structure chez tous les bilatériens de ces deux parties du système nerveux central. C'est un système nerveux central, c'est quelque chose qui reçoit les informations des organes des sens et qui les traite. Et en particulier, donc, finalement, les organes de la vue, c'est-à-dire les yeux, eh bien, sont traités au niveau du cerveau, et les images sont traitées au niveau du cerveau. Et le résultat, c'est que, en réponse à ces différents stimulus, que ce soit donc optique pour ce qui est des yeux, mais d'autres organes des sens, eh bien, il y a des réponses motrices. Et c'est-à-dire que le système nerveux central va avoir une fonction d'intégration, de recevoir les différents signaux sensoriels et de répondre par des signaux moteurs, donc en activant les muscles. Donc c'est ça la fonction du système nerveux central. Or, c'est bien évident que chez les méduses, eh bien, on n'a pas de système nerveux central qui soit homologue du système nerveux central des bilatériens. Il n'y a pas de ganglion cérébroïde, il n'y a pas de l'équivalent d'une chaîne nerveuse ou d'une moelle épinière. Donc on a le problème de savoir comment c'est possible. Enfin, comment ça fonctionne? Est-ce que les méduses ont une vision? Et oui, eh bien, les méduses ont pas seulement des yeux, donc on voit qu'on a 6 yeux par opalis, ce qui fait 24 yeux, mais ces yeux sont fonctionnels et on a effectivement une vision. Et ça a pu être montré par la première fois par un chercheur britannique de la fin du 19e siècle qui a utilisé des méduses qui avaient des yeux et qui a coupé, enlevé justement, découpé sur l'ombrelle les endroits où il y avait des ropalies. Si on enlève une ropalie, on s'aperçoit que la méduse va nager moins précisément, de manière assez erratique. Si on enlève deux ropalies, pareil. Si on enlève les quatre ropalies, à ce moment-là, la méduse s'arrête de nager, elle est incapable de nager. Donc ça montrait que, en fait, on a une véritable vision. C'est-à-dire que les yeux qu'on voit dans ces ropalies, non seulement sont capables, ne sont pas un appareil optique, mais sont effectivement cette vision, cet appareil optique forme une image et cette image est interprétée par le système nerveux. Or, c'est quoi le système nerveux chez les méduses? Vous avez ici une représentation du système nerveux de cette méduse que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on voit, on voit des ropalies et on voit
là, regardez ici. Là.
Ah, voilà. Là, on la voit. Vous voyez ici, il y a un nerf qui passe par les différentes ropalies et qui, en fait, fait le tour de l'ombrelle complète, complètement le tour. Non, j'ai perdu. Je ne sais pas faire. On a un nerf qui fait un cercle complet, tout le tour de l'ombrelle, En plus de ça, justement, on a pu montrer que chez les méduses, l'influx nerveux n'est pas orienté. Chez nous, chez la plupart des animaux, enfin, pratiquement tous les animaux bilatériens, l'influx nerveux va dans un sens. C'est-à-dire que vous avez un neurone et vous avez d'une part le corps cellulaire et l'axone. Et en général, vous avez un axone, parfois il y a deux axones, mais de toute façon, vous avez des dendrites qui sont des ramifications au niveau de la tête du neurone, enfin du corps cellulaire, et qui reçoivent un influx nerveux, et cet influx nerveux est transmis le long du neurone, et donc on a une circulation dans un seul sens. Chez les cnidaires, l'influx nerveux se dirige dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on a un influx nerveux qui est produit par à la suite d'une vision, ben voilà, j'ai retrouvé une vision par une rhompalie, eh bien il va faire le tour et il fait tout le tour aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc en fait toutes les rhompalies sont réunies par cet influx nerveux et on a une coordination comme ça des différentes rhompalies. Et donc ce qui permet de comprendre que bien qu'on n'ait pas de système nerveux central, on a quand même une réponse au niveau du système nerveux chez ces méduses. Et donc on a une véritable vision, pas seulement la formation d'une image grâce aux yeux de la rhompalie. Je vous avais dit, on a 6 yeux par rhompalie, et dont deux gros yeux possèdent une lentille. Et donc non seulement on a une orientation, une image qui est multiple, puisque on a 6 yeux par rhompalie, 24 yeux en tout par méduse, donc avec des orientations différentes, ce qui permet d'avoir une image finalement, quand on reconstitue l'image produite par ces 6 yeux, ces 24 yeux en fait, eh bien on a la méduse a une image très très importante de tout son environnement, aussi bien au-dessus, au-dessous, et dans pratiquement à 360 degrés. Alors voilà pour la méduse et le mystère de son absence de système nerveux central n'exclut pas le fait qu'elle ait à proprement parler une vision. Alors maintenant je vais vous parler d'un autre organisme qui est l'aphronyme. Alors cet organisme, vous voyez, est assez curieux. Il a un aspect même monstrueux, tellement monstrueux qu'il a servi de modèle pour la fabrication de l'alien dans le film L'Alien, par les gens qui ont construit l'alien, en fait, et qui ont imaginé cet être étrange qui sort des entrailles de la belle Sigourney Weaver. Et mais, donc cette phronyme est un animal tout à fait étrange. Mais en fait, c'est très petit. C'est-à-dire que c'est un crustacé. C'est un crustacé, un amphipode. Un amphipode, pourquoi ? Parce que chez les amphipodes, eh bien, vous avez les pattes, vous avez les pattes avant qui vont vers l'avant et les pattes arrière qui vont vers l'arrière. Donc en fait, on a l'impression que le corps est vraiment divisé en deux, d'où le nom amphipode. Et alors, chez ces phronymes sont très bizarres. Non seulement elles ont un aspect horrible, mais elles ont un habitat très particulier. Elles vivent dans un tonneau. Alors, c'est que vous voyez, c'est quoi ce tonneau ? En fait, ce tonneau, c'est tout simplement l'enveloppe, la tunique, d'un tunicier particulier. Les tunicés sont des organismes qui sont proches des vertébrés, bien qu'ils aient une allure à la taille adulte qui est très différente. En fait, les larves ressemblent beaucoup à des larves de vertébrés, ce qui a été démontré par Kovalevski à la fin du 19e siècle, et donc ça fait très longtemps, on classe les tuniciers, qu'on appelle aussi des urocordés, comme groupe proche des vertébrés. Et aujourd'hui, on considère même que c'est le groupe frère des vertébrés, c'est-à-dire le groupe, la lignée phylétique qui est la plus proche des vertébrés. Et donc, il se trouve que parmi ces tuniciens, il y a des organismes qu'on appelle des salpes, qui flottent à la surface de l'eau et qui ont une tunique, et cette tunique en forme de tonneau, eh bien, l'acronyme les mange carrément. Elle mange le salpe et elle se sert de la tunique et elle s'introduit dans la tunique du salpe. Donc en fait, ce sont les femelles qui vivent comme ça dans un tonneau, comme Diogène qui vivait dans un tonneau. Et finalement, donc le nom de phronyme vient du grec, comme beaucoup de ces noms. Et donc ces noms, les zoologistes adorent les noms qui dérivent du grec. Et phronyme veut dire intelligent. Et donc on voit vraiment que ces bêtes sont très intelligentes de se servir de leur nourriture comme protection. Et en fait, donc, comme je vous ai dit, c'est seulement les femelles qui vivent dans le tonneau. Et les mâles, eux, s'approchent du tonneau. Donc les femelles, elles ont deux habitats. Un habitat en surface, ou en tout cas près de la surface de la mer, c'est là où elles trouvent les salpes, et un habitat beaucoup plus profondément, jusqu'à 200-300 mètres de profondeur. Donc c'est déjà assez bizarre. Et pour s'adapter à ces deux habitats, les phronymes ont non pas une paire d'yeux, comme nous et comme la plupart des animaux bilatériens, mais deux paires d'yeux. On les voit, ici on ne les voit pas si bien, mais là on les voit. Vous avez les yeux supérieurs, qui sont très gros, et les yeux latéraux, qui sont beaucoup plus petits. Donc, ce qui est étrange, c'est que ces yeux supérieurs, ces gros yeux, font partie de l'aspect monstrueux des phronymes. Mais vous voyez qu'il y a une chose étrange, c'est qu'on a ici l'opsine. L'opsine qui est le pigment coloré, qui est le pigment photorécepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit les photons, et c'est vrai. En fait, l'opsine est présente sous différentes formes, mais c'est toujours de l'opsine dans tous les yeux de tous les animaux. Et donc, vous voyez ici, pour ces gros yeux, l'opsine est quand même très loin. Et donc, elle est finalement au même niveau que l'opsine des yeux latéraux. Vous voyez, au même niveau. Ici, vous avez l'opsine de l'œil supérieur et l'opsine de l'œil latéral. La même chose ici, l'œil latéral, l'œil supérieur. Donc, ça pose un problème à nouveau, c'est comment la lumière qui arrive forcément du côté de l'œil supérieur arrive jusqu'au photorécepteur qui se trouve très loin. Eh bien, vous avez une fibre. En fait, une fibre optique. Quasiment, c'est comme une fibre optique qui va conduire les photons depuis la surface jusqu'à... Et cette fibre optique fait environ 5 mm, ce qui, compte tenu de la taille de l'ensemble de l'animal, parce que l'animal, lui, fait 2 ou 3 cm, vous voyez que c'est quand même, c'est considérable. Donc d'avoir un appareil aussi sophistiqué que ça, c'est-à-dire avec une fibre, non seulement elle a deux paires d'yeux qui lui permettent de s'adapter pour ce qui est des yeux supérieurs finalement au mode de vie qui est près de la surface, et pour des yeux inférieurs au mode de vie qui est au contraire loin de la surface, Donc d'avoir deux paires d'yeux, ça permet cette adaptation à deux habitats différents. Et pour résoudre le problème, eh bien, on a finalement inventé une fibre optique qui va conduire sur finalement une distance qui est vraiment grande par rapport à la taille de l'animal, les photons. Donc on a des yeux tout à fait remarquables. Une deuxième propriété de l'œil des phronymes, c'est que la rétine est discontinue. On n'a pas l'habitude, nous on a une rétine qui est tout à fait continue, pratiquement sur 180 degrés, enfin en tout cas même plus, puisque c'est une rétine sphérique. Mais là, on a la rétine qui est formée de petits bouts. Mais ces petits bouts sont reliés. Chaque point correspond à une rangée de photorécepteurs. La phronyme, c'est un crustacé. C'est comme tous les crustacés, c'est comme les insectes, ont des yeux à facettes. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les yeux supérieurs. La résolution n'est pas suffisante. Si on voit quand même ici, vous voyez, on voit que ce sont des yeux à facettes. Et en fait, c'est la même chose pour les yeux latéraux. Ce sont des yeux à facettes. C'est-à-dire, ce sont des yeux composés. Nous, on a un œil qui est complexe, mais qui est simple. Simple dans le sens de l'optique. Un œil simple pour un opticien, ou un appareil photo, si vous voulez. Simple, c'est un appareil photo qui a une ouverture vers la lumière. Et nous avons une ouverture vers la lumière, une par œil. Et en revanche, pour les insectes et pour les crustacés, d'autres organismes aussi, ont des yeux, ce qu'on appelle des yeux composés, qui s'opposent aux yeux simples, dans ce sens qu'ils ont plusieurs ouvertures vers la lumière. Et même chez les crustacés, ça peut être très nombreux. Vous avez les homards qui ont des yeux à facettes aussi. Les homards grandissent tout au long de leur vie, donc des vieux homards sont très gros. Ils ont aussi des yeux très gros et des yeux qui peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de facettes. Donc on voit que le nombre des facettes est quelque chose qui est relativement important, puisque plus on a de facettes, plus l'image sera moins pixelisée, c'est-à-dire le pixel sera, on aura donc une image qui sera plus fidèle. Et voilà. Donc, et là, on a affaire à un système tout à fait étrange, Dieu, chez les phronymes. Donc, à la fois, ce sont des yeux qui sont des yeux qui sont comparables à ceux des yeux des autres crustacés et des autres insectes. Les insectes sont en fait des crustacés qui sont sortis de l'eau. Donc on sait maintenant que les insectes sont issus des crustacés. Mais les insectes et les crustacés ont des yeux tout à fait semblables, et non seulement les yeux, mais aussi tous les trajets nerveux qui mènent des yeux aux organes, aux ganglions cérébroïdes. Et toutes les différentes connexions nerveuses sont tout à fait semblables chez les insectes et chez les crustacés. Donc voilà. Alors je vous ai présenté, en suivant donc finalement la démarche de Darwin, un certain nombre d'yeux extrêmement différents. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tout cela a pu être façonné par la sélection naturelle. Dans le cas de la phronyme, on peut dire qu'on a, on voit bien qu'on a une adaptation qui correspond à l'habitat de l'animal, dans ce sens que si on a deux paires d'yeux, eh bien c'est bien pour s'adapter aux deux hauteurs dans la colonne d'eau de vie de l'animal. Donc en fait, on est dans un système tout à fait darwinien. Si on a multiplié les yeux, c'est par adaptation. Ça veut dire aussi que finalement, quand les circonstances sont favorables, Et du moment qu'il existe finalement les gènes qui permettent le développement des yeux, c'est pas difficile de créer des yeux. Vous voyez, une deuxième paire d'yeux, eh bien, c'est pas compliqué pour la nature, disons, d'inventer une deuxième paire d'yeux s'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous rendre compte d'un aspect de la théorie de l'évolution qui est ce paradoxe qu'on a appelé le frisson de Darwin, qui est comment se fait-il que la théorie, que la sélection naturelle et les variations, la descendance avec modification, qui sont les deux piliers de la théorie darwinienne, qui sont toujours les deux piliers de la théorie de l'évolution moderne, eh bien, aient pu rendre compte de l'apparition et la diversité des yeux chez les animaux. Voilà. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Discours. Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon, avec notre propre connaissance.
Salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9. 9. 9.